radiovostok.ch.
En direct sur Vostok, il est 16h25, l'heure d'accueillir au micro Philippe Davet, bonjour.
Bonsoir.
Alors, vous êtes conseiller en art chez Blondeau et compagnie. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? C'était un plan de carrière mûrement réfléchi ou plutôt le résultat des aléas de la vie?
Oula, alors c'est vraiment la deuxième proposition. C'est même une histoire assez longue. C'est toujours la peine pour moi de la faire courte. Je suis expert comptable à la base. Je m'intéresse pas du tout à l'art. Et à 30 ans, c'est une rencontre avec Marc Blondeau, qui est aujourd'hui mon associé, et qui a eu cette idée qu'on est les propriétaires du lieu ici, d'ouvrir une galerie à Genève, et qui m'a proposé de faire un programme d'exposition d'art contemporain en 2000, ce qu'on a fait jusqu'en 2017. Donc une rencontre et une découverte magnifique.
Et vous le disiez, hein, vous êtes propriétaire de l'espace dans lequel nous nous trouvons, la Fondation Fluxum. Quels sont vos liens avec cette fondation?
Dès le moment qu'on a décidé de cesser notre activité de galerie pour se concentrer à notre métier de conseiller d'art, on a décidé de mettre en location la galerie et le premier étage. Et par grand hasard et par grande chance, Cynthia a très vite démontré de l'intérêt pour l'espace. Et on est plus qu'enchanté d'avoir quelqu'un comme ça comme voisin.
Et en temps normal, en quoi consiste votre métier, conseiller en art?
Alors, je pourrais dire chiner. En fait, on est des chineurs d'art. On a un réseau de collectionneurs qui achètent de l'art contemporain. Enfin, pas contemporain, on a un domaine très vaste. On commence à Ingres, donc l'art qui a été fait depuis 1820 jusqu'à aujourd'hui. Et notre métier, c'est de trouver des œuvres qu'on va appeler exceptionnelles, de grande qualité, et essayer de trouver des acheteurs pour ces œuvres.
Donc vous réfléchissez en temps... avec des coups de cœur personnels ou vous avez toujours en tête un acheteur potentiel?
Alors c'est une très bonne question. Non, le critère c'est l'histoire de l'art. C'est pas une collection que je fais avec mes coups de cœur, mais c'est une collection qui a des références dans l'histoire de l'art et qui doivent aussi rentrer dans un ressenti ou des coups de cœur des collectionneurs.
Et avec l'éruption de la Covid-19, qu'est-ce qui a changé?
Alors l'art, ça va être long vraiment pour savoir. Aujourd'hui, tout est chamboulé. Ça va avoir des grosses répercussions. Je veux dire, par rapport aux activités de commerce, qu'on pense restaurant, bar ou de distribution, ça a un effet direct. Nous, c'est encore trop tôt pour le savoir. Il va y avoir des incidences, mais c'est un marché qui est plutôt lent, avec des saisons. Donc je pense qu'avant la fin de l'année, ce sera difficile de vraiment faire un bilan. Pour l'instant, c'est en point d'interrogation.
Et généralement, les acheteurs, est-ce qu'ils considèrent une œuvre comme une valeur refuge?
Alors, il y a plein d'acheteurs. Alors ça, c'est super intéressant ce que vous me dites, parce que moi, je travaille avec des collectionneurs. Et ce que j'appelle des collectionneurs sont des gens qui se passionnent pour l'art et qui ont envie de connaître et apprendre à travers l'art. C'est une toute petite partie des acheteurs d'art. C'est vraiment la plus petite des parties. C'est pas neuf, ça a toujours été comme ça. Il y a 50 ans, c'était pareil. Il y a 100 ans, c'était pareil. La grande majorité des gens aujourd'hui qui achètent, c'est ce que j'appelle des décorateurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui achètent des œuvres d'art pour décorer des maisons. Il n'y a rien de péjoratif dans tout ce que je vais vous donner comme définition. Chacun a son rôle, chacun est très bien dans son rôle. Donc les décorateurs, ils vont avoir moins d'importance sur l'histoire de l'art, mais ils vont vouloir chercher quelque chose qui va bien aller dans leur salon, dans leur chambre à coucher, dans leur chalet, dans leur maison au bord de la mer. Il y a des investisseurs, ça c'est une plus petite partie, qui, alors là, répond directement à votre question, qui cherchent de investir, donc peu d'intérêt sur l'histoire de l'art, mais une valeur refuge. Et après, la toute plus petite partie, et c'est aussi ce qu'on parle beaucoup dans les médias, c'est les spéculateurs, parce qu'il y en a aussi. Et donc nous, on accompagne ce qu'on appelle des collectionneurs, donc des gens qui rentrent dans la démarche de comprendre l'art, l'histoire de l'art, le travail de l'artiste.
Ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant.
Alors ça, c'est peut-être de votre point de vue. Quelqu'un qui s'intéresse à l'argent, peut-être va trouver plus d'intérêt avec des investisseurs.
Bon, bah chacun fera son choix.
Exactement.
Les interprétations sont libres. Nous sommes donc en direct de la Fondation Fluxum et à l'étage inférieur, il y a un robot, Dai, le premier artiste performeur à intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes d'accord de qualifier cette machine d'artiste ?
Non.
Non ? Pourquoi ?
Alors, on parle du média, en fait. Hein, c'est un média comme un autre. Et tout le début de toute cette histoire, on la retrouve chez Duchamp, qui est l'inventeur, le père spirituel de l'art conceptuel. Et, enfin, à mon avis, c'est complètement erroné d'appeler une machine une personne. Enfin, on le fait dans aucun domaine. On n'aurait pas cette idée-là en informatique, on n'aurait pas cette idée-là en musique. Donc, pourquoi le mettre dans l'art à la place d'une personne ? Ça reste une machine. Avec des capacités énormes, ça reste une machine. Donc, l'art, depuis 1910 à peu près, a complètement basculé les médiums, parce que jusqu'à Duchamp, l'art était soit de la peinture, soit du dessin, soit de la sculpture. Et depuis Duchamp, il a tout cassé. Et depuis là, une performance, un film, une photographie, rien. Un homme peut être de l'art. Donc évidemment que l'intelligence artificielle n'existait pas en 1910, mais a permis de prendre a permis de considérer l'intelligence artificielle comme étant un médium comme un autre qui peut rentrer dans la catégorie de l'art.
Et ça ouvre quand même un champ de possibilités pour vous ?
Alors, ça prolonge complètement l'idée originale de Duchamp, car Duchamp était très intéressé par la réaction du spectateur face à une œuvre d'art. Donc, avant ça, c'était que l'objet qui était expliqué, analysé, compris, théorisé. Depuis Duchamp, la réaction du spectateur, du collectionneur, du musée, de la société, face à une œuvre d'art, fait partie du processus. Ce truc absolument hallucinant qui a eu lieu en 1915, quand il va mettre dans une galerie un urinoir et qu'il le présente comme une sculpture, a eu un impact gigantesque, mais surtout par la réaction des spectateurs, ou des connaisseurs, ou des spécialistes. Donc là, on prolonge ça. Où ça va plus loin avec l'intelligence artificielle, c'est que la machine peut prendre en compte des ressentis, pas forcément que des ressentis, des mouvements, des chaleurs, des bruits faits par le spectateur, qu'il va reproduire. Mais c'est simplement une étape plus loin qui n'était pas possible sans la technique en 1910.
Et une étape qui est déjà en fait atteinte par les performeurs humains contemporains.
Qui a été atteinte par les performeurs humains contemporains, tout à fait.
Et vous qui avez un peu une vision d'ensemble quand même du marché actuel, est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres autour de l'intelligence artificielle en ce moment ?
Très très peu. Alors à ce niveau-là, l'art est un peu à la traîne, je dirais, surtout si je compare avec la musique, qui a intégré ces machines depuis très longtemps et qui est vraiment aujourd'hui quelque chose de commun. Dans l'art, c'est très récent. Alors je peux parler de deux phénomènes, on va dire. Il y a un phénomène purement marché et qui n'est pas très intéressant, mais il y a un groupe d'artistes qui s'appelle Obvious, qui ont eu des œuvres d'art qui ont passé en vente aux enchères, qui ont fait des très gros prix. Mais le travail n'est pas très intéressant et c'est un truc un peu, on va dire, de mode, de moment. Par contre, il y a un autre projet qui a été exposé à la Serpentine Gallery, qui est à Londres, par l'artiste Pierre Huyg, qui date de l'année passée, qui est un projet extrêmement compliqué, extrêmement ambitieux, qui mélange plein de choses. Et je vais peut-être si j'ai un tout petit peu de temps, je pense que ça vaut la peine, juste pour vous donner l'idée, de lire ces quatre lignes, la présentation de ce projet. Donc Pierre Huyg définit, vous définissez des conditions, mais vous ne pouvez pas définir le résultat. Comment une entité donnée va interagir avec un autre? Il y a un ensemble d'éléments. La façon dont ils entrent en collision, se confrontent et se répondent est imprévisible. Je ne veux pas exposer quelque chose à quelqu'un, mais plutôt l'inverse. Exposer quelqu'un à quelque chose. Donc il va jusqu'à changer le rapport complètement, où ça devient le spectateur qui est l'art et la machine le regardeur.
Mais ce qui va aussi, du coup, aussi très loin, dans, mettons dans l'idée qu'on peut se faire d'une intelligence artificielle qui, dans ce cas-là, dans cette configuration, semble être l'humain.
Alors, super loin. C'est des images projetées qui ont été créées par ordinateur de scans de cerveau où c'est une représentation imagée de, d'un mot qui a été donné à une personne et qui a été donc numérisé et fait en images. C'est des centaines de millions d'images provenant du cerveau humain qui sont projetées dans des écrans. Ensuite, quand vous rentrez dans l'exposition, il y avait des lumières différentes, il y avait des zones de chaleur différentes, il y avait des milliers de mouches et il y avait des capteurs qui étaient reliés aux ordinateurs centraux et qui allaient modifier les images en fonction de ce que ces capteurs pouvaient enregistrer comme information. Donc ils enregistraient les informations des mouches, du vent, de la température, des spectateurs, du mouvement des spectateurs, de leur réaction. Et ça faisait que ces images étaient changées en permanence et défilaient. On croyait, moi je pensais que c'était un film en réalité, mais donc ça passait tellement vite qu'on savait l'image, ça, on avait l'impression d'un film. Et jamais deux fois le même résultat.
C'est fou.
C'était assez impressionnant, ouais.
Bon. Et vous pensez que les artistes vont de plus en plus s'emparer de ce sujet?
Je suis pas sûr. En tout cas, lui, il a été très loin. C'est pas du tout son ballot d'essai. C'est un artiste qui a plus de 50 ans. Il a fait auparavant. Lui, il a créé un artiste. J'y avais pas pensé avant. Il a acheté un manga. Vous savez, les personnages manga, c'est des choses qui peuvent s'acheter en Japon. Et il a donné une autonomie. C'est-à-dire qu'il a créé une association, une fondation, qui est propriétaire du manga. Et chaque artiste peut utiliser ce manga et en faire ce qu'il veut. Et ce personnage qui s'appelle Anne Lee existe depuis 2005-2006 et à la libre disposition des artistes pour mettre en vie ce manga.
Bon. Bah, c'est passionnant. Merci beaucoup pour cette contextualisation, Jacques Davet. Vous êtes, je le rappelle, conseiller d'art chez Blondeau et compagnie et je vous laisse aller profiter de la réouverture du quartier des Bains. Très bon après-midi.
Merci beaucoup.
Radio-Vostok.ch